sommes ici à l'Odyssée, à Dol de Bretagne, pour une rencontre autour organisée par le syndicat des eaux de Beaufort, donc du pays de Saint-Malo. Et nous sommes avec Emma Aziza. Bonjour.
Bonjour.
Emma Aziza, vous êtes hydrologue, docteur de l'école des mines. Vous êtes experte dans le développement des stratégies pour la résilience des territoires face aux extrêmes climatiques. Vous avez été chroniqueuse pour France Info dans cette émission qui s'intitule « Degré de conscience ». Vous abordez les enjeux environnementaux et climatiques et notamment la question de l'eau. Tout simplement, pourriez-vous nous dresser un tableau de la situation des ressources en eau en France et plus précisément en Bretagne et notamment en Ille-et-Vilaine? Voilà, c'est en quelques mots évidemment.
Alors, en France, actuellement, on peut dire qu'on est dans un état plutôt satisfaisant puisqu'on a des nappes qui sont réellement remplies. On a même l'impression qu'il ne s'est quasiment jamais arrêté de pleuvoir depuis presque un an et demi. Et en général, ça a tendance à réduire complètement la prise de conscience de notre vulnérabilité face à la ressource en eau. Et donc, les actions ont tendance à se freiner quand il pleut trop. Et alors qu'on avait plutôt augmenté et accru cette réalité quand on a vu entre 2017 et 2022 des sécheresses récurrentes, répétées. Chaque année ne racontait pas la même chose. On a eu des années qui s'alternaient. Parfois, ça s'arrête. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans un contexte de réchauffement climatique, on va avoir des températures qui ne font qu'augmenter de manière graduelle. Et on le voit très bien sur la France, peu importe quelle ville en France, si on enregistre les températures depuis 20 ans, on voit qu'on a une ligne droite qui monte. Et donc, ça va avoir comme conséquence le fait d'accélérer le cycle de l'eau. Et quand on se met à accélérer ce cycle, eh bien, les territoires vont réagir en fonction de leur vulnérabilité. Si on a oublié d'intégrer le cycle de l'eau depuis des décennies, parce qu'on a trop urbanisé, anthropisé les territoires, si on a trop aménagé, mais notamment sur le plan agricole, qu'on a compacté les sols, en fait, on a oublié la vie de ces sols, on les a complètement recouverts d'une chape quasiment de plomb, j'ai envie de dire, quand on aménage nos villes, et on a oublié à quel point ce cycle de l'eau est essentiel partout. Il est essentiel parce qu'il régule la température, il régule la chaleur, donc en réalité, et surtout, la pluie qui arrive, eh bien, il faut absolument réussir à ce qu'elle serve au territoire. Parce que le deux tiers repart immédiatement dans l'atmosphère. Et donc, finalement, l'eau qui va ruisseler la part est assez importante, on va dire qu'on sait entre 23 et 26% qui ruissellent sur une pluie normale, sur un territoire basique, mais seulement 9% réussit à s'infiltrer dans une nappe phréatique. Et donc quand on comprend ça, on comprend à quel point l'eau qui va réellement nous servir à nous au territoire, que ce soit dans nos nappes ou dans nos rivières, elle est tout de même extrêmement infime. Et donc plus on va chercher à réaménager les territoires en prenant cette conscience du respect de ce cycle de l'eau, en freinant notamment face à cette rapidité accrue par l'augmentation des températures, plus on va réussir à peu apaiser ce cycle, à le restaurer et donc à arrêter de naviguer entre des extrêmes. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. La France bascule bien souvent de périodes de sécheresse extrêmement marquées et historiques à des périodes d'inondations extrêmement sévères. Ça concerne tous les territoires et le territoire de Bretagne est d'autant plus concerné qu'il ne peut pas s'appuyer sur des réserves extrêmement profondes, comme ça peut être le cas sur le bassin parisien où vous avez des sables qui forment un aquifère et qui a une largeur de 100 000 km². Vous avez notamment dans le Grand Est de très très grandes nappes qui font partie des plus grandes nappes européennes. C'est pas le cas lorsqu'on est dans des territoires de socle où on va avoir de l'eau qui s'insère uniquement dans les fissures. Donc les réserves profondes sont toujours fonction de l'histoire du territoire et de l'histoire géologique. En l'occurrence, eh bien, la Bretagne est fragile par rapport à cette histoire qu'il y a dans ses sous-sols. Et donc, elle ne peut s'appuyer que sur sa réserve superficielle, c'est-à-dire les premières couches de sol et ce lien entre les couches de sol et la rivière. Et donc, c'est tout ce travail qu'il va falloir mener pour le respecter, pour réussir à optimiser ce cycle de l'eau et notamment à récupérer, dès qu'on le peut, au maximum l'eau de pluie pour pouvoir la restituer avec un effet retard. Et donc on se rend compte que les conséquences sont immédiates et bénéfiques pour l'intégralité du système, puisqu'on va réussir en fin de compte à apporter de l'eau en continu sans avoir ces à-coups et ces stress hydriques extrêmement marqués qui vont non seulement impacter le territoire, le sol, le microbiote, mais nous, puisqu'on est directement concernés. Et quand on a un sol sec, on a des températures plus marquées lors de canicules et on sait qu'on est très vulnérable à ça, puisque les années 2022 et 2023 ont été particulièrement meurtrières en termes de canicule. Donc apaiser un territoire, apaiser un sol, c'est aussi baisser la température et c'est aussi venir limiter tous les extrêmes qui peuvent nous concerner et qui concernent notamment notre propre vulnérabilité qu'on a parfois complètement oubliée.
Vous parliez donc du cycle. Il y a aussi la question des usages de l'eau dans un contexte de réchauffement climatique. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Finalement, toutes nos activités sont dépendantes de l'eau.
C'est vrai que quand on parle d'un territoire, on a toujours tendance à penser à l'eau comme une ressource, comme de l'eau potable. Et donc, on a le sentiment que le seul effort qu'on pourrait faire éventuellement, c'est de fermer son robinet quand on se lave les dents. C'était une grande campagne de communication qui avait été lancée à l'époque par le... Vous voulez reprendre peut-être ? Donc on a toujours un peu tendance à connaître les gestes, les bons gestes qui vont permettre des économies d'eau, c'est-à-dire fermer son robinet lorsqu'on se lave les dents, essayer de mettre des mousseurs sur ses robinets, réussir à mettre des réducteurs de débit de douche. Et donc tous ces éléments-là concourent effectivement à réduire notre usage à l'échelle domestique. Mais l'eau n'a pas que ce seul usage qui reste infime par rapport aux autres grands usages de l'eau. Et donc ces autres grands usages sont d'abord, si on prend sur le plan quantitatif, eh bien un usage énergétique, parce que pour fabriquer de l'eau, dans la majeure partie des cas, il nous faut beaucoup d'énergie. Et donc que ce soit les centrales nucléaires ou thermiques, que ce soit les barrages hydroélectriques, pour qu'ils puissent fournir de l'énergie, il faut qu'il y ait de l'eau. Alors cette eau, elle est largement restituée au territoire, contrairement à des eaux qui sont utilisées comme notamment l'eau agricole qui, elle, va être utilisée par la plante directement et va repartir ensuite dans l'atmosphère sous la forme de vapeur d'eau, donc sera perdue pour le territoire. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des chiffres qui sont beaucoup plus importants sur la fonction agricole et notamment durant la période estivale qui peut être composée entre 50 et 80% de la ressource en eau qui est utilisée pour ces usages. Et donc face à une diminution de cette ressource en eau, face à une pénurie de plus en plus marquée, c'est un peu comme une peau de chagrin de Balzac où en fait vous allez avoir cette peau de chagrin qui se réduit de plus en plus. Et face à ça, vous avez tout un ensemble d'utilisateurs qui sont avant tout des utilisateurs économiques, c'est-à-dire qui soutiennent leur propre économie. Et donc, on va confronter des acteurs qui vont se retrouver l'un face à l'autre et chacun veut essayer de se préserver. Et c'est comme ça que démarrent les guerres de l'eau, en général, parce que... Et qu'est-ce qu'on va prioriser ? Est-ce qu'on priorise surtout la fonction énergétique sur un territoire ? Est-ce qu'on priorise l'adduction en eau potable ? Est-ce qu'on priorise l'eau industrielle, mais qui va permettre aussi une économie du territoire ? Est-ce qu'on priorise l'eau agricole, qui permet une économie du territoire et notamment effectivement une fonction nourricière ? Ce sont des vraies questions. Et donc, une fois qu'on a parlé de la question de la quantité d'eau, eh bien, il faut ensuite aborder la question de la qualité, c'est-à-dire qu'est-ce que laissent ces fonctions d'utilisateur derrière au territoire. Est-ce que une activité industrielle et le rejet de ces eaux va être soutenable sur un territoire qui a de moins en moins d'eau parce que les polluants vont être de moins en moins dilués? Est-ce qu'on peut continuer aujourd'hui certaines formes d'agriculture intensive avec certains intrants de pesticides qui empêchent parfois des usages et notamment le fait d'avoir accès à des forages d'eau? De nombreux forages en France en 2022 lors de la grande sécheresse n'ont pas pu être utilisés parce que la consommation n'était pas possible à cause des quantités de pesticides utilisées. Donc ça signifie que ce sont des réserves stratégiques auxquelles on n'a pas pu avoir accès. Donc ce sont des questions qu'il va falloir se poser demain parce qu'il va y avoir de plus en plus de contraintes et souvent quand on a un an et demi de pluie, eh bien on a tendance à oublier finalement, on repart un peu en arrière en termes de prise de conscience. Et donc, c'est un travail qui absolument continue sur les territoires. Donc, c'est vrai que ici, le fait de se retrouver et de mêler tous ces acteurs et de parler de ces sujets, de les poser sur la table tous ensemble, c'est aussi co-construire quelque part une forme de cerveau collectif qui va être à l'œuvre pour essayer d'agir ensemble, de comprendre qu'il faut arrêter de diviser, qu'il faut au contraire réunir, essayer de comprendre chacun, essayer de comprendre les enjeux notamment qui se déroulent derrière les contraintes économiques de chacun et se demander quelque part qu'est-ce qu'on souhaite tous en commun pour ce territoire.
Emma Aziza, merci pour cet entretien donc à l'Odyssée. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Nadia Dupont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université de Rennes 2. Vos axes de recherche tournent notamment des risques inondations et par ailleurs sur les usages de l'eau à l'échelle des bassins versants et les conflits inhérents qui se posent. Nous sommes ici pour une rencontre donc à l'Odyssée, le centre culturel de Dol de Bretagne, autour des conséquences du réchauffement climatique sur la gestion et la distribution et l'approvisionnement en eau. Tout simplement, je pose la question à la géographe, pourriez-vous nous peindre le tableau justement de la ressource en eau en Ille-et-Vilaine?
Alors, le tableau de la ressource en eau en Ille-et-Vilaine, comme un peu tout le massif armoricain, en fait, la particularité, c'est que l'essentiel de la ressource en eau, elle est superficielle. Donc, c'est-à-dire qu'on a des eaux souterraines, mais qui sont morcelées, avec des petits réservoirs. Et donc, du coup, les usages de l'eau se sont très vite surtout tournés vers cette eau superficielle qui circule dans les rivières, avec des sols aussi qui sont souvent assez peu profonds et argileux. Donc, une perméabilité qui n'est pas très, très importante. Donc c'est voilà, la particularité de cet espace géographique.
On a pu vivre très dernièrement des inondations, notamment au sud de Rennes. Vous en êtes une spécialiste. Les inondations qui, comme les sécheresses, sont des phénomènes climatiques qui sortent de la normalité et qui risquent, avec le réchauffement climatique, le dérèglement, de s'amplifier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement les projections qui peuvent exister en la matière, et notamment en Ille-et-Vilaine?
Alors du coup, au niveau du dérèglement climatique, effectivement, les projections, c'est une augmentation de la variabilité en fait, climatique. C'est-à-dire que des événements qui étaient avant considérés comme très rares vont devenir certainement plus fréquents. Et donc, d'un côté, des températures excessivement hautes vont certainement être plus fréquentes. Et inversement, de l'autre côté, des précipitations très importantes, par exemple en hiver, pour ce qui nous concerne, peuvent également être plus fréquentes. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui apparaît aussi, notamment au niveau des précipitations, c'est certainement des événements plus intenses. Donc en fait, une circulation de l'eau qui est plus rapide, liée aux fortes intensités. À la fois en hiver, mais aussi sur des épisodes, par exemple printaniers, hein, comme ça a pu, ces dernières années, on en a vu également en Ille-et-Vilaine, hein, qui ont provoqué parfois aussi des inondations en juin, ce qui était rarissime auparavant. Donc c'est plutôt des phénomènes que l'on considérait comme très exceptionnels qui vont finalement devenir plus quotidiens, et des extrêmes, notamment au niveau de température, que l'on ne connaissait pas, qui vont apparaître.
Quels sont les cours d'eau, les territoires qui risquent d'être les plus impactés en Ille-et-Vilaine?
Alors, ça serait difficile de faire la liste, mais ce qui est certain, c'est que sur l'Ille-et-Vilaine, en fait, on a des territoires et des cours d'eau qui ont déjà des assecs qui sont naturellement un peu présents, et donc forcément, ça va s'aggraver. On a des cours d'eau qui ont peu de stock d'eau, notamment en eau souterraine, et qui donc ont ce qu'on appelle des étiages, hein, des niveaux bas l'été qui sont souvent déjà faibles naturellement, hein, c'était déjà le cas avant, et donc qui risquent de s'aggraver. Sur le bassin de la Vilaine, par exemple, c'est tout ce qui est les bassins qui sont à l'est, hein, de l'axe de la Vilaine, où on a ce risque-là, comme le bassin de la Seiche, le Sémenon également. Ce sont tous ces secteurs, et également en amont sur le bassin amont de la Vilaine, où on a en fait des stocks d'eau souterraine qui sont pas très importants, et donc du coup un risque d'assèchement sur les petits cours d'eau qui peut être plus important dans les prochaines années.
Quelles conséquences sur les activités?
Alors, conséquences sur les activités et sur le milieu aussi, hein, faut pas l'oublier. Ben, du coup, les prélèvements d'eau, hein, que l'on fait, hein, puisqu'on a des prélèvements, comme je l'ai dit, beaucoup sur la ressource superficielle, qui risque d'être problématique. Donc, il y a des barrages, hein, qui sont présents dans ces zones-là. Le remplissage de ces barrages, on l'a vu sur ces années particulièrement chaudes, eh bien, il est problématique et il n'arrive pas à se faire, hein, en période hivernale. Et du coup, on a un risque de pénurie d'eau.
Dans vos axes de recherche, il y a aussi les conflits que cela engendre. Est-ce que vous pouvez nous faire un détail des types de conflits qui peuvent justement émerger pour les sécheresses notamment et les manques d'eau?
Pour les conflits pour les manques d'eau, déjà on a un conflit entre usage et préservation du milieu. C'est le premier conflit en fait. On sait que on a dans la loi l'obligation de laisser un écoulement réservé en fait au milieu, ce qu'on appelle le débit réservé. Effectivement, si on est en pénurie d'eau, et ben on demande des dérogations pour pouvoir quand même capter plus qu'on ne devrait. Donc ça fait un premier conflit en fait entre l'usage anthropique et puis ce que l'on laisse pour le milieu pour qu'il puisse survivre. Donc ça c'est la première chose. Et un milieu qui survit, c'est aussi d'autres activités de pêche par exemple, de loisirs, etc., qui sont mis à mal. Donc on peut avoir du coup un conflit entre ces usagers-là et les autres usagers qui utilisent la ressource en eau. Et puis après, il peut y avoir plutôt des conflits autour des usagers de l'eau, entre des usagers industriels, les habitants eux-mêmes, des usagers agricoles aussi, qui ont aussi, qui captent un certain volume d'eau. Donc on voit qu'en période de pénurie, en fait, chacun regarde finalement quelles sont les restrictions qui sont données pour les uns et pour les autres. Et ça peut engendrer effectivement des remises en cause sectorielles, en fait, entre les choix qui sont faits pour les différents usages.
Quel moyen de résilience voyez-vous ? Sur quoi faut-il agir en priorité pour minimiser justement ces conflits et trouver des solutions intelligentes ?
Alors il y a un premier axe, mais c'est déjà travailler sur sa consommation. Pourquoi on utilise cette eau ? L'eau c'est quand même un bien qui va être rare et qui est précieux, donc il faut vraiment réfléchir à son usage. Donc ça c'est un axe. Et après il y a un deuxième axe, c'est d'essayer de faire en sorte que dans le cycle de l'eau sur les territoires on arrive à au maximum stocker l'eau qui tombe sur un territoire, donc de favoriser toutes les zones de stockage, tout ce qui est infiltration, pour que l'eau ne circule pas vite et disparaisse très rapidement vers la mer. Donc là, c'est un travail qui est fait plutôt sur les sols, sur la végétation, pour favoriser l'infiltration et que l'eau en fait circule lentement, gagne les eaux souterraines. Et au plus on fait ça, au mieux en fait on a un stock d'eau disponible à la fois pour nos usages, mais aussi pour le milieu naturel.
Finalement, la biodiversité fait partie, en grande partie, de la solution avec les économies d'eau.
Exactement. En fait, préserver un milieu biodiversité, c'est un peu très, très large en fait, comme terme. Je dirais un milieu où on a une diversité de végétation et une végétation surtout présente et présente sur le long terme, enfin longtemps, qui ne se renouvelle pas continuellement, donc qui a le temps de s'installer. Plus on a en fait ce milieu que l'on préserve et qui reste longtemps, plus du coup derrière il y a une biodiversité de la faune et un système qui se met en place, et plus en fait l'eau elle va circuler lentement, elle va pouvoir s'infiltrer et se stocker. Et en plus on gagne en qualité, donc c'est deux gains. On gagne en quantité et en plus on gagne en qualité de l'eau. Et plus on a de l'eau de qualité, plus ça règle aussi des questions de quantité d'eau.
Très bien. Merci à vous Nadia Dupont, vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université de Rennes 2. Merci.
Merci.